Chapitre 36. Tandis qu'il étudiait l'antique parchemin céruléen déroulé sur son bureau, analysant le diagramme complexe où des multitudes de lignes reliaient entre eux les éléments du langage de la création, Anis Arc ne fut pas surpris de voir les sept silhouettes éthérées entrer dans la pièce comme une âcre fumée charriée par une bise mordante. Telle une improbable congrégation de spectres, dérivant au gré d'un vent surnaturel, ces formes sans substance, serrées les unes contre les autres, errèrent un moment entre les ours et les monstres empaillés perchés sur des socles, puis elles slalomèrent au milieu d'une forêt de piédestaux de pierre soutenant d'énormes recueils de prophéties d'une inestimable valeur. Enfin, elles longèrent les présentoirs vitrés où était exposée une impressionnante collection d'objets rares. Les sept, n'utilisant pas souvent les portes, les volets des fenêtres du rez-de-chaussée, plusieurs étages plus bas, restaient ouverts en signe d'invitation permanente. Même si elles passaient volontiers par les fenêtres, les sept n'en avaient pas davantage besoin que des portes. Pour entrer quelque part, la moindre fissure leur suffisait, à l'instar des vapeurs méphitiques qui montent à l'aube de la tourbe immonde d'un marécage. Les volets restaient ouverts afin que chacun sache, les sept y comprises, qu'Anis Arc n'avait peur de rien. À Saavedra, la capitale de la province de Fadjin, une cité qui se dressait dans une grande plaine dominée par la citadelle, beaucoup de gens dormaient les volets clos. Dans les terres noires, c'était une pratique universellement répandue. S'enfermer chez soi la nuit par crainte de ce qui rôdait à l'extérieur était somme toute logique. Si c'était judicieux pour les habitants de la capitale, ça l'était encore plus pour les téméraires qui vivaient dans des coins isolés. Les périls nocturnes n'avaient rien d'imaginaire, car il s'agissait de créatures armées de griffes et de crocs dont la soif de sang semblait inextinguible. Ce n'était pas l'unique menace, loin de là, mais toutes les autres surgissaient beaucoup trop vite pour qu'on ait le temps de réagir. Anis Arc ne redoutait pas les ombres qui hantaient la nuit. Pliant à sa volonté ces éléments malveillants du monde, il les dominait assez pour devenir la source même de la peur et non une de ses victimes. Afin qu'il soit toujours prêt à le servir, rugissant sur son ordre, il s'assurait d'instiller dans le cœur des autres les tisons ardents d'innombrables et terribles variations de la terreur. Anis Arc entendait que les gens aient peur de lui. S'il le craignait, ces misérables insectes le respecteraient, lui obéiraient et se prosterneraient devant lui. Consciencieux dans tout ce qu'il faisait, il prenait garde à alimenter régulièrement l'angoisse de ses sujets. À l'inverse de presque tous les habitants des Terres Noires, Anis Arc ignorait la peur. En revanche, une colère qui ne s'apaisait jamais brûlait en permanence en lui. C'était elle, en fait, qui n'y laissait pas assez de place pour que la peur puisse y prospérer. La fureur qui l'animait brillait à la manière d'une étoile, lui indiquant son chemin dans les ténèbres les plus denses. Elle était toujours là pour le contraindre à agir, le conseiller et même le réprimander quand il négligeait de redresser les torts dont elle le pressait de s'occuper. En plus d'être sa fidèle compagne, la colère était la meilleure amie d'Anis Arc et la seule pour dire la vérité. La lueur des dizaines de bougies piquées sur un chandelier géant à l'autre bout de la pièce vacilla lorsque les sept familières les frôlèrent, s'attardant un peu comme si elles entendaient chevaucher le courant d'air chaud produit par les flammes. Le vieux scribe Moller leva les yeux du grimoire posé sur un lutrin dans lequel il était en train d'écrire. Il plissa pensivement le front comme s'il avait eu l'impression d'avoir entendu quelque chose. Une des sept silhouettes tourna lentement autour de lui, une main semblable à une volute de brume lui caressant la mâchoire. Comme s'il avait senti quelque chose, le vieil homme regarda autour de lui. Bien entendu, il ne repéra rien. Il lui était impossible de voir les familières. En revanche, la femme qui montait la garde près de la porte en était parfaitement capable. Du bout de ses doigts ratatinés par l'arthrose, Moller se tâta la joue. Ne sentant rien d'anormal, il laissa retomber sa main et recommença à consigner dans son grimoire les plus récentes prophéties transmises par l'abbaye. Se laissant flotter jusqu'au plafond, les sept tourbillonnèrent le long des arches de pierre, puis frôlèrent les poutres massives, tout en surveillant la grande salle chichement éclairée par le chandelier.
« C'est à toi de jouer !»
rappela Anis Arc au vieil homme. Moller tourna la tête vers son maître.
« Oui, c'est vrai !»
Posant sa plume, le scribe se détourna de son travail et d'un pas traînant alla se camper d'un côté du piédestal de marbre, où trônait un plateau de jeu sur lequel s'affrontaient deux armées de pièces, l'une en albâtre et l'autre en obsidienne. Le scribe avait eu tout le temps de réfléchir à son coup, presque toute la nuit à vrai dire, car Anis Arc avait pris son temps pour jouer, analysant toutes les possibilités de son adversaire. Aucune n'était très bonne pour l'évêque. Cela dit, certaines pouvaient se révéler moins fatales que d'autres. D'une main hésitante, Moller saisit une pièce blanche et la posa sur une case, capturant la pièce noire qui s'y trouvait. Un coup qui, selon lui, avait des chances d'être décisif. En plus de supprimer du plateau une pièce importante pour les Noirs, cette attaque menaçait d'une fin rapide en faveur des Blancs. Anis Arc se leva. Les mains croisées dans le dos, il vint lui aussi se camper devant le plateau de jeu. Se grattant pensivement la joue, il imita à la perfection l'air accablé d'un joueur affecté par la perte inattendue d'une pièce. Dans ce genre de cas, on s'accordait généralement une longue réflexion. Mais la prise de cette pièce n'avait rien d'inattendu. Avançant un pan noir, Anis Arc attendit la réaction de son adversaire. Moller avait prévu cette riposte. Sans réfléchir de nouveau à la série de coups qu'il avait calculés, il prit le pan avec son roc d'albâtre, une contre-attaque qui devait selon lui mettre un terme rapide à la partie. Anis Arc avait prévu cet accès d'impatience chez le vieux scribe. De fait, la partie ne durerait plus très longtemps, mais elle n'aurait pas la conclusion qu'anticipait Moller. Contrairement à la plupart des gens, Anis Arc ne pêchait jamais par manque de patience. Depuis des heures, il se préparait à ce moment de triomphe, sans jamais rien trahir de son excitation intérieure. Dans d'autres domaines, il lui était arrivé de se contenir ainsi pendant des décennies. Se décidant enfin, il saisit sa fierge noire entre le pouce et l'index et captura le roc blanc apparemment si menaçant pour son roi. Quand il eut posé la pièce prise sur un côté du plateau, il dévoila enfin la profondeur de son piège.
« Mat forcé en sept coups, Moller !»
Sonné, le vieux scribe eut besoin de quelques instants pour comprendre. Quand il se fut représenté la série de coups mentalement, il chercha une éventuelle défense, n'en trouva pas et rendit les armes avec un soupir résigné.
« C'est imparable, oui. Une preuve de plus que je ne suis pas un adversaire à votre taille, évêque. »«
Retire-toi maintenant. »«
Pardon, je n'ai pas fini de recopier les rapports de l'abbaye. »«
Il se fait de plus en plus tard. » « Je ne resterai plus très longtemps ici. Tu viendras terminer ton travail demain matin. »
Moller s'inclina bien bas.
« Bien entendu, évêque, à vos ordres. »
Le vieux scribe s'éloigna, mais il s'immobilisa et se retourna.
« Avant que je m'en aille, avez-vous besoin de quelque chose? Une boisson, peut-être, ou quelque chose à manger ?»
Une des familières vint tourbillonner autour de Moller, le taquinant. Le scribe regarda autour de lui, là encore comme s'il avait senti quelque chose, mais il n'insista pas, sans doute convaincu que le grand âge lui jouait des tours. Il regarda son maître, guettant une réponse.
« Non, il ne me faut rien de tout ça. Mais quand je reviendrai demain, je tiens à commencer la journée en consultant les derniers messages de l'abbaye. »
« Vous ne serez pas déçu, évêque. »
Gagnant la porte, Moller posa la main sur la poignée, mais il se retourna encore une fois, comme s'il lisait les sombres pensées de son maître.
« Vous prendrez votre revanche, évêque. Les dernières prophéties annoncent que votre patience sera récompensée. Vous régnerez bientôt sur Dara, je vous le garantis. Les prophéties sont formelles. »
Anis Arc foudroya le scribe du regard, se demandant s'il était sincère ou s'il le flagornait. Voyant une lueur d'espoir dans les yeux du vieil homme, il opta pour la première solution. Certains hommes avaient besoin d'être dirigés d'une main de fer. Moller était du lot. Petit et mesquin, il se sentait rassuré de vivre à l'ombre d'un grand homme. Mais il n'y avait pas que ça. Le scribe avait assisté à tout. Il savait que son maître bouillait de colère, et il connaissait la raison de cette fureur. Comme toujours, lorsqu'il repensait à ce drame, Anis Arc revit une série d'images saccadées de cette terrible nuit. Alors qu'il se débattait à chaque pas, jurant qu'il était loyal à la maison Rall, on avait traîné son père dans la cour, où des soldats s'étaient mis à le frapper à coups de gourdin. Accroché aux jupes de sa mère, Anis Arc se rappelait comment elle l'avait poussé dans l'entrée, le forçant à se cacher dans un coffre de bois avant de refermer le couvercle. Des soldats étaient revenus s'emparer d'elle. Tandis qu'il la traînait à son tour dans la cour, Anis Arc, par une fissure dans le bois, avait vu un autre bourreau faire éclater le crâne de sa sœur aînée d'un coup de masse d'armes. Avant de mourir, sa mère avait hurlé longtemps. Plus tard, quand il avait osé soulever très légèrement le couvercle du coffre, Anis Arc avait vu le cadavre de sa sœur, le sang qui rougissait le sol de l'entrée et les pavés de la cour. Ses parents morts. Les cris et les pleurs des domestiques forcés d'assister au massacre. Puis leur fuite éperdue lorsqu'ils s'étaient avisés que leur propre vie ne tenait plus qu'à un fil. Leur mission accomplie, les soldats ne s'étaient pas attardés sur les lieux de la boucherie. Craignant qu'ils reviennent pour lui, Anis Arc avait passé la nuit entière dans l'obscurité de sa cachette. Peu après l'aube, un jeune serviteur nommé Moller, venant de la ville pour travailler à la citadelle, l'avait découvert dans son coffre et aidé à sortir. Convaincu qu'il n'existait pas de meilleure défense que l'attaque, Panis Rall avait pour habitude d'étouffer dans l'œuf toute menace potentielle. Avec une froide efficacité, ses soldats exécutaient sommairement toute personne susceptible de menacer leur maître. Victime du délire de la persécution, Panis Rall avait fini par redouter le modeste dirigeant de la province de Fajin, un homme qui n'avait jamais seulement songé à porter un jour préjudice à la maison Rall, un innocent condamné à mort avec toute sa famille. Mais les clairvoyants, comme on les appelait parfois, ne devaient pas être pris à la légère. Les détenteurs du don eux-mêmes se méfiaient de leur mystérieux pouvoir. Les terres noires pouvaient représenter une menace pour la maison royale. De ce point de vue-là, Panis Rall ne s'était pas trompé. Mais en frappant le dirigeant de la province de Fajin, il avait choisi la mauvaise cible, ou en tout cas, la mauvaise génération. Sentant la colère bouillir en lui, Anis Arc se répéta que l'heure de la vengeance avait sonné. Aucun seigneur Rall ne le ferait plus trembler de peur, et il redresserait tous les torts. C'était lui que les soldats auraient dû tuer. Le nouveau seigneur Rall, disait-on, n'avait rien à voir avec Panis Rall, ni avec Darken Rall, un tyran qui avait réussi à être plus cruel et plus injuste que son meurtrier de père. Mais quelle importance! La vengeance n'en serait pas moins douce. Si maléfique qu'il fût, Darken Rall était aveuglé par une obsession. N'étant pas encore prêt à frapper, Anis Arc lui avait fait un cadeau empoisonné afin qu'il regarde ailleurs pendant que son pire ennemi fourbissait ses armes. Une boîte d'ordaine. Oui, la boîte d'ordaine qui était cachée depuis des lustres au cœur des terres noires. L'évêque de Fajin n'avait rien à faire d'un tel artefact. Très reconnaissant, Darken Rall lui avait concédé une certaine autonomie et quelques privilèges des plus utiles. Comme cela se passait souvent, l'obsession de Darken Rall avait provoqué sa chute. Il avait fini assassiné par son fils, prénommé Richard. Un Rall parricide, voilà qui n'avait rien pour étonner Anis Arc. Depuis sa prise de pouvoir, Richard Rall ne s'était pas mêlé des affaires des Terres Noires, et il ne leur avait demandé aucun tribut. Là encore, ça ne modifiait rien. De toute façon, il pouvait changer d'avis à tout moment et imiter ses sinistres ancêtres. Même s'il s'en abstenait, c'était un Rall, et cela suffisait à sceller son destin. Le nouveau seigneur Rall avait conduit l'empire d'Aran à la victoire contre un tyran tel que le monde n'en avait jamais connu. Sans en avoir conscience, il avait sauvé Anis Arc, l'homme qui allait bientôt lui briser l'échine. Comme son père, Richard Rall n'avait aucune idée de la puissance d'un homme comme Anis Arc. S'il avait été moins bon tacticien, L'évêque aurait pu frapper plus tôt, pendant que son ennemi s'acharnait à fédérer l'empire d'Aran et à gagner la guerre. Tout ça pour devoir la livrer à sa place face à l'incroyable sauvagerie de l'ordre impérial. Plein de sagesse, Anisarch s'était tenu à l'écart du conflit, développant ses pouvoirs pendant que Richard Rahl menait une longue et difficile guerre. Histoire de ne pas se faire remarquer, l'évêque avait même envoyé des troupes combattre l'ordre, comme l'eût fait tout dirigeant loyal à l'Empire d'Aran. Se mettant à l'abri du danger, il avait peaufiné ses plans. La guerre terminée, l'heure de se venger de la maison Rahl avait sonné. Richard Rahl était respecté, admiré et même aimé par des multitudes de gens. C'était un héros, un vainqueur et un chef incontesté. L'évêque s'en félicitait, car la chute n'en serait que plus dure. Du coup, l'irrésistible ascension d'Anisarch en paraîtrait plus glorieuse encore. Mais se contenter de tuer un homme de cette envergure ne suffirait pas. Faire de Richard Rahl un martyr servirait sa gloire et n'aiderait pas Anisarch à prendre le pouvoir. Assassiner un seigneur Rahl aimé de tous, puis investir le palais du peuple en réclamant la couronne, était le plus court chemin vers l'échafaud. Les choses ne pouvaient pas être aussi simples que ça. D'autant plus que l'évêque de la province de Fadjin était aux yeux des Daran un illustre inconnu. Personne ne lui obéirait. Pour l'instant, en tout cas. La première étape était de miner la popularité de Richard Rahl, semer le doute sur sa capacité à protéger le peuple avant tout, puis inciter les gens à ne plus le respecter. Une fois privé de son aura, Richard Rahl s'écroulerait comme un géant au pied d'argile. Dans la panique qui suivrait, les Daran, enfin avides de se libérer du joug de la maison Rahl, seraient heureux de confier leur sort à un homme partageant leurs inquiétudes sur l'avenir. Pendant que Darken Rahl jouait avec ses ridicules boîtes d'ordaines, puis, tandis que son fils combattait l'ordre impérial, Anisarch avait inlassablement travaillé au grand dessein qui justifiait son existence, renverser la maison Rahl et prendre sa place. Et comme toujours, sa patience avait été récompensée. Désormais, le triomphe était à portée de main. « Ne t'inquiète pas, Moller, » dit Anisarch au scribe qui n'avait pas bougé, le laissant méditer tout son sou. « Je dirigerai l'Empire, et ce jour viendra plus vite que nous l'espérions. Les rouages du changement se sont mis en mouvement, et sur le plateau de jeu, toutes les pièces sont en place. Plus rien ne m'arrêtera. La maison Rahl sera bientôt vaincue.
Les prophéties sont de votre côté, maître, et le Créateur aussi, j'en suis sûr. S'il vous a protégé le jour du meurtre de vos parents, c'est parce qu'il avait un grand destin en réserve pour vous. Depuis, il a favorisé votre ascension et éliminé bien des obstacles qui se dressaient sur votre chemin. Maintenant que la destination finale est proche, il ne vous abandonnera pas.
À travers les prophéties, il nous annonce qu'il en sera ainsi.
J'attends avec impatience que les ténèbres se déchirent une nouvelle fois, ainsi que les prophéties nous l'annoncent.
Anisarch se demanda ce qu'aurait pensé Moller s'il avait su que les ténèbres s'étaient déjà déchirées au cœur même du fief ennemi.
Mais comment aurait-il pu se douter que les sept familières, blotties les unes contre les autres au plafond, voyaient et entendaient tout, et qu'elles répéteraient fidèlement chaque mot à la pitié silence?
Vous serez bientôt le maître de Dara, évêque. Oui, vous dirigerez l'Empire.